Chapitre 13. Comme d'habitude, l'endroit était rempli de villageois. Des hommes se tenaient non loin du crachoir au fond, près du bureau de Gaston. Des mères discutaient entre elles, appuyées sur l'un des comptoirs, ou empêchaient leur progéniture de mettre la main dans le pot de caramel à côté de la caisse. En voyant les enfants hissés sur la pointe des pieds, Madeleine se souvint combien Simone et elle avaient rêvé, petite, de vivre dans un magasin général. « Imagine !» soufflait Simone. « On pourrait manger tous les bonbons qu'on veut et essayer les poudres pour les madames !» ajoutait Madeleine. La lumière un peu diffuse reposait ses yeux après le soleil éclatant de l'extérieur. Installée près de la caisse, Girola posa son regard clair sur la nouvelle arrivante. S'il était étonné de la présence de Madeleine dans le commerce, il n'en montra rien, ce qui plut à la jeune femme. Il hocha la tête sans rien dire avant de la replonger sur son grand registre, dans lequel il notait les achats des villageois. À la fin de l'année, son père Gaston ferait les comptes, et les hommes transféreraient, pour la plupart, une partie de leurs dettes à l'année suivante. Pourtant, le marchand général n'était pas tendre à l'égard de ceux qui n'arrivaient pas à payer les sommes dues en entier. Comme Gaston arrimait ses prix à ceux de la compagnie Robin, les pêcheurs ne pouvaient guère aller ailleurs dans l'idée d'obtenir plus pour leur morue.
« Je suis quand même pas une œuvre de charité !»
avait coutume de dire Gaston à ceux qui se plaignaient et lui demandaient un peu de clémence. Dans le cas des familles Poirier et La Violette, un seul mot à côté de leur nom se répétait année après année. « Parfait !» Les jumelles et leur mari s'étaient assurés de poursuivre dans la même veine que leur père avant sa mort. Marcelin Gérard n'avait jamais passé une année sans régler intégralement ses comptes. Il était l'un des rares chanceux à pouvoir y arriver. Et il avait inculqué chez ses quatre enfants l'importance de ne pas avoir d'arriérés. Dans le village, on ne se gênait pas pour dire derrière leur dos que c'était facile d'être au-dessus de ses affaires qu'on avait hérité de terre et d'une belle grande barge. Même si le père des filles savait ce qu'on disait à leur égard, il n'en demeurait pas moins qu'il avait fait fructifier son héritage et n'avait aucune gêne à se savoir plus à l'aise que la plupart des pêcheurs. « C'est toujours bien pas un crime si mon père a osé quitter Québec pour venir coloniser le coin ici », avait coutume de dire Marcelin. « Il a pris tous les risques et ils ont rapporté. C'est bien tant mieux pour lui et pour nous autres. » Marcelin n'avait quand même pas légué des milliers de dollars à sa progéniture, et les villageois commentaient l'aisance des familles des jumelles, surtout lorsque leur mari s'acquittait de leurs dettes entièrement. Le reste du temps, les deux ménages vivaient comme les autres, dans des maisons de taille normale, avec quelques animaux pour leurs besoins quotidiens. Plantée près de la porte d'entrée du magasin, Madeleine laissa sa vision s'adapter et tenta d'observer discrètement les clients. Elle hésitait entre s'avancer avec nonchalance vers le comptoir des tissus et aller dans la seconde partie du magasin, où les poches de farine côtoyaient les outils et les agrès de pêche. Mais elle n'eut pas le temps de réfléchir que Mathias arriva devant elle en remontant son pantalon trop grand. « Ah, tiens, c'est Madeleine! Hey, vous autres, c'est Madeleine, la sœur de l'autre jumelle! » Le rouge aux joues, la femme leva la main de manière défensive pour faire taire l'idiot. Mais le gros costaud contourna plutôt le landau et se pencha beaucoup trop près du bébé endormi au goût de Madeleine. La face ronde de Mathias se releva vers elle. « La cigogne a laissé un bébé, ça a l'air! » ricana-t-il en pointant Arthur. Madeleine grimaça en souhaitant faire disparaître l'importun par une réponse sèche. « Oui, c'est ça. J'aime pas ça, les bébés! » grogna Mathias avant de demander du même souffle. « Je peux le prendre? » « Non. » La femme refusa catégoriquement, alors que les autres clients riaient de voir son visage offusqué. Pour l'instant, tous avaient oublié que Madeleine n'avait pas mis les pieds au magasin depuis plusieurs semaines.
« Mathias, laisse-la donc tranquille, c'est fragile, un bébé, tu vas l'échapper, mon innocent !»
cria un vieil homme assis au fond du commerce, les pieds sur une caisse de bois.
« Je suis fort, je vais pas l'échapper !»
s'obstina Mathias. Il se tourna et leva les bras pour montrer ses biceps aux villageois. Madeleine en profita pour le contourner et s'éloigner en longeant le comptoir de bois. Mathias renifla bruyamment et haussa ses larges épaules en grommelant. Les autres clients rigolèrent et Girola, las de le voir traîner près de lui, fit un signe de la main.
« Bon, dégage, Mathias, ça fait 2 heures que tu niaises ici. Va voir Noé au garage, j'imagine qu'il aura bien une jobine à te faire faire. »
Le niais plissa son visage trop large, frotta son menton mal rasé et remonta de nouveau son pantalon. Il cracha dans le plat de métal posé dans le coin près de la porte et sortit sans dire un autre mot. Madeleine remercia le jeune châtain d'un petit signe de tête. Près des hommes assis à l'arrière, la porte du bureau s'ouvrit pour laisser passer Gaston et le mari de Géraldine, la mine basse. Omer Veillette, un homme trapu de 35 ans, tenta de plaider sa cause une autre fois, sans aucune gêne.
« Il me faudrait juste un peu de temps, » marmonna Omer. « C'est sûr que nous payer 3 piastres, le quintal, c'est pas beaucoup. Me semble que tu pourrais augmenter un peu. Laisse-moi tranquille, Omer. » répliqua sèchement Gaston. « Va sur l'eau avant 8 heures du matin et tu seras capable de pêcher assez de morue pour régler tes dettes et peut-être même mettre un peu d'argent de côté. »
Le mari de Géraldine, peu vaillant, ronchonna. «
C'est pas de ma faute, si je suis malade. Tu sais que j'ai pas une bonne santé. Malade, c'est pas une raison pour éviter de travailler. Tu sauras qu'avoir des problèmes d'estomac sur la mer agitée, c'est pas facile pantoute. »
Un des vieux tout près d'eux riposta en ricanant.
« Lâche la boisson, mon Homer, ton estomac va mieux se porter. C'est pas la mer le problème. »
Pas du tout impressionné ni embarrassé par le commentaire, le pêcheur replaça ses bretelles et se pencha vers Gaston, appuyé contre le cadre de la porte de son bureau, les bras croisés sur le devant de son gros ventre.
« Faudrait au moins que tu laisses Géraldine acheter sa farine puis sa poudre à pâte, au moins ça. Elle dit qu'il y a toujours bien des limites à empêcher une femme de nourrir sa famille. »
se lamenta Omer en coinçant sa casquette sous son bras.
« Puis, oublie pas que c'est une de tes petites cousines. »
Madeleine était bien heureuse de constater que l'attention des clients était dirigée vers le duo. En elle-même, la femme ne pouvait s'empêcher de remarquer, encore une fois, que Géraldine était bien mal mariée. Omer Veillette n'était pas très beau, avec un nez épaté au milieu d'un visage marqué par l'acné. S'il avait charmé Géraldine au début par son humour et ses belles paroles, le pêcheur s'était avéré avec les années de moins en moins productif. Au même rythme que les grossesses de Géraldine, l'homme avait accumulé les excuses pour éviter les journées trop longues en mer, ce qui fait qu'il avait perdu sa place sur la barge de Télesphore Landry, 2 ans plus tôt. Ce dernier, un pêcheur expérimenté, avait décidé de trouver un second plus fiable. Omer se retrouvait donc à travailler pour qui voulait bien l'avoir sur son bateau. Gaston secoua sa tête blanche sans répondre et retourna s'enfermer dans le bureau vitré d'où il avait vu sur son magasin. La discussion était close. Mal à l'aise à l'idée d'interagir avec cet homme qu'elle connaissait depuis son enfance et qui s'était inévitablement rangé du côté de Simone à la suite de la mort des lois, Madeleine se tourna vers Rosalie et pointa un coton blanc sur la tablette du haut.
« Tu peux me le montrer? Palmire veut faire des draps. »
« Certains. On l'a reçu la semaine passée. Maman dit que c'est presque de la soie tellement c'est doux. »
Rosalie grimpa sur une caisse de bois et tira le bras. Madeleine sourit sans rien dire. La jolie brune déposa le rouleau de tissu sur le comptoir devant elle et avança le cou pour voir le bébé dans le carrosse. La jeune fille aimait bien travailler au magasin de ses parents pour être au courant de tous les derniers potins. Comme elle avait un petit faible pour Freddy, elle s'intéressait particulièrement à Madeleine. En plus, la tragédie entourant les jumelles Gérard demeurait encore d'actualité. Pointant Arthur, elle s'exclama « Il est gros, ton garçon? »
« Oui. »
« T'es chanceuse. Valentine Dumont a eu un gars pas plus pesant qu'un poussin en fin de semaine.
» Peu encline à discuter de sa bonne fortune, Madeleine se risqua à demander le prix du coton. Satisfaite de la réponse de Rosalie, elle précisa « Je vais en prendre 10 pieds. »
« Ouais, on sait bien, pas de problème avec rien, hein, Maddie? »
Le commentaire lancé par Omer Veillette dans leur direction fit grimacer Rosalie et rougir Madeleine. Comme à son habitude, cette dernière ne réagit pas à l'attaque, préférant se concentrer sur ses achats. Mais frustrée par le refus de Gaston Taillefer de lui faire une nouvelle fois crédit, le mari de Géraldine s'avança près des deux femmes. Il resta un moment à regarder le bébé et sa mère, et alors que Madeleine espérait le voir s'éloigner, il marmonna méchamment «
Comment ça quand on tue un enfant et qu'on a la chance d'en mettre un au monde 2 mois plus tard? Oh, mère! »
La voix de Gaston, que l'homme n'avait pas vu sortir de son bureau, claqua derrière le trio.
Le marchand s'avança d'un pas menaçant et pointa la porte du commerce.
« Là, tu vas aller sa grave t'arranger pour gagner de l'argent pour ta famille. Mais je voulais... Non, je veux plus t'entendre. Tu reviendras quand tu seras capable d'être respectueux avec mes clients. »
La mine piteuse devant l'affront qu'il subissait, Homer se mit à respirer plus rapidement. Il décida de partir sans demander son reste, en cherchant comment il allait aviser sa femme que Gaston n'avait rien voulu savoir d'une entente. Grommelant de manière incompréhensible, il se dirigea vers la sortie. La voix de Madeleine s'éleva soudainement et elle répondit à la question posée d'une voix forte et remplie de chagrin.
« On se sent déchiré, Homer, si tu veux savoir. Déchiré jusqu'au plus profond de son être. »
Tom et Freddy fumaient en silence en plein centre de la baie. Le soleil moins accablant de cette journée d'automne leur permettait de rester assis sous les rayons en attendant la levée de leur ligne. Les deux hommes somnolaient pendant le temps mort, récupérant un peu de sommeil qui leur faisait défaut. Le haut du rocher percé, couvert d'un manteau d'herbe verte et de mousse orangée, éclatait dans un magnifique mélange de couleurs. Freddy jeta un long regard sur l'île Bonaventure au loin avant de parler.
C'est drôle quand même à quel point l'île ressemble à une énorme baleine échouée vue d'ici,
pointa le jeune homme, bien appuyé contre la paroi du bateau. Tom examina à son tour les 3000 de l'île Bonaventure, milieu de vie d'oiseaux marins de toutes sortes.
C'est vrai. Si on s'approche un peu, on pourrait entendre et admirer les fous de bassin de l'autre côté.
Ça te tente qu'on fasse le tour et qu'on aille les voir? Depuis qu'on pêche ensemble, on n'a jamais jeté l'ancre près de l'île. Ça pourrait être distrayant. C'est certain que la morue se tient loin de là, mais une fois n'est pas coutume, puis on peut rester dans le coin juste une heure ou deux et s'éloigner après. Qu'est-ce que t'en penses?
Freddy fit une moue dédaigneuse qu'il tenta de camoufler en tournant la tête.
L'homme n'avait jamais admis à personne la peur irraisonnée qu'il avait de ces gros oiseaux au plumage blanc éclatant et à la tête jaune pâle. Les falaises habitées par les hordes de volatiles qui y avaient fait leur nid ne l'attiraient pas du tout. Il préféra donc changer de sujet avant de se lever dans la barge.
« Donne-moi donc le bois, » demanda le brun. « Je vais partir la cambuse. Il est presque 11 heures. »
Tom délaissa son observation du paysage au loin à regret et hocha sa tête blonde.
« Bonne idée. J'ai déjà faim. »
Il se pencha pour agripper une dizaine de morceaux de bois. Freddy alluma le feu sous un semblant de four rudimentaire dans lequel était plongé un chaudron. Il y versa de l'eau de mer et le couvrit d'un couvercle. Pendant ce temps, Tom se mit à dandiner une ligne pour agacer quelques poissons. La mer était d'un calme rassurant et le silence se réinstalla entre les hommes.
« Tiens, en voilà deux !»
lança Tom au bout d'un moment, ressortant de petits aigles fins qui s'étaient laissés tenter par l'appât.
« Parfait, juste à temps !»
Satisfaits, les beaux-frères étripèrent et coupèrent les poissons avant de les déposer dans le chaudron où l'eau chauffait. Tom s'empressa de rajouter une bonne pincée de poivre en savourant d'avance ce repas. Il sortit la grosse miche de pain que Simone lui avait donnée et déchira un gros morceau pour le fourrer dans sa bouche. Cherchant un sujet neutre, Freddy se mit à commenter le meurtre des cousines Maud et Marguerite Aska, qui avait eu lieu l'année précédente. Sans réfléchir, il lança avec colère. « Peux-tu croire que leur meurtrier va avoir un nouveau procès le mois prochain? Je parie qu'en plus, on va le libérer en disant que les preuves sont pas assez bonnes pour le faire pourrir en prison. Ce gars-là a tué les deux filles, j'en suis sûre. » Sans s'apercevoir du silence de Tom, l'homme continua sur le même ton emporté.
« Quand ils l'ont condamné la première fois, c'était toujours bien pas sans raison. » Non, moi, je te le dis, ce Nelson Phillips aurait dû être pendu comme prévu au mois de mai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tom?
Relevant enfin la tête de son travail de cuisson, Freddy posa son regard foncé sur son beau-frère. Il réalisa enfin la portée de ses paroles en voyant les traits tendus du grand blond. Choqué contre lui-même d'avoir oublié de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler d'un sujet aussi sordide, il délaissa la cuisson de ses poissons pour s'excuser. Mais il n'eut pas le temps, car l'autre pêcheur se leva, jeta un bout de croûte à l'eau et cracha «
Les meurtriers finissent pas toujours en prison. C'est ça que je pense. »
Les deux hommes se fixèrent longuement, et c'est Freddy qui baissa la tête le premier. Il se sentit lâche de ne pas oser dire le fond de sa pensée, c'est-à-dire que la noyade des lois n'avait rien à voir avec l'assassinat sordide des cousines Aska sur la plage de Penouille. Il aurait voulu défendre Madeleine, mais il ne savait jamais quoi répondre devant la rage qui habitait encore son beau-frère. Incapable de tenir tête à Tom, il décida de se taire et de ruminer sa colère. Si ça continuait à être aussi malaisant, au printemps prochain, il trouverait une autre barge sur laquelle s'engager. Freddy se dit qu'il avait tout l'hiver pour dénicher un capitaine qui avait besoin d'aide. Au pire, il s'informerait même dans les villages voisins si Tom ne changeait pas d'attitude. Il y avait toujours des limites à se laisser traiter ainsi. Il souleva le couvercle du chaudron et huma l'arôme qui s'en dégageait avant de lancer d'un ton neutre « C'est bientôt prêt ». Tom ne répondit pas, le regard voguant sur les eaux glaciales de la mer. L'homme songea qu'il demanderait à Émile de lui donner un coup de main pour l'aider à se procurer des encornets dans les jours suivants. Puisque son beau-frère avait de la difficulté à rester réveillé pendant la journée, il le laisserait se coucher de bonne heure. Après tout, rien ne l'empêchait de demander à d'autres hommes de l'aider dans ses tâches. Tristement, la belle amitié qui unissait auparavant les deux pêcheurs n'avait pas résisté à la terrible épreuve. Pourtant, le père des lois avait l'impression d'aller un peu mieux depuis une semaine. Il lui arrivait de rire de nouveau, brièvement, mais quand même de bon cœur. Il s'était surpris à quelques reprises à jaser de manière naturelle avec Freddy, et du coup, ce dernier avait espéré que leur relation reviendrait comme avant. Mais il suffisait qu'une parole soit interprétée de telle ou telle manière pour que l'animosité ressurgisse entre les hommes. Au loin, derrière le village, les nuages s'étaient accrochés au Mont-Sainte-Anne et Freddy voulut alléger l'atmosphère en parlant du temps. « Je pense qu'on va avoir de la pluie bientôt. »« Peut-être bien. » Les deux hommes échangèrent un regard bref et Freddy soupira discrètement. La colère était au moins disparue du visage de son beau-frère. Il avait évité la tempête. Malgré l'accrochage avec Omer Veillette, c'est une Madeleine satisfaite qui quitta le magasin général avec ses achats, une trentaine de minutes après son arrivée. Rosalie l'avait déridée en lui murmurant qu'elle aimerait bien connaître Émile un peu plus, mais que chaque fois qu'elle s'adressait à lui, il devenait rouge comme un coquelicot. En posant le pied sur la route, la jeune femme décida sur un coup de tête de descendre le chemin Gaspé pour se rendre sur la Grave. « On a encore une bonne heure avant le dîner. Je vais aller voir ce qui se passe autour des vigneaux. Je pourrais peut-être même donner un coup de main à Émile si mon Arthur continue de dormir. » La femme croisa quelques villageoises qui remontaient vers la colline et qui la saluèrent sans s'attarder, pressées par les tâches qui les attendaient chez elle. Comme Madeleine et Palmyre avaient enfourné leur pain au petit matin et que la sauce blanche aux œufs prévue pour le souper se préparait en un tour de main, la femme n'avait pas à se dépêcher pour aller cuisiner. Elle grimaça un peu en manœuvrant les énormes roues en métal du landau entre les crevasses et les roches dans le chemin. Levant la tête vers la plage, elle songea à toutes les heures d'efforts fournies pour travailler la morue au cours des dernières années. C'était la première fois depuis son adolescence qu'elle arrêtait aussi longtemps. « L'année prochaine, mon gars, tu vas venir avec maman et papa. Puis à ce moment-là, tu vas te promener partout sur tes petites jambes. » La tête penchée sur le bébé qui avait ouvert les yeux, Madeleine ne vit pas Géraldine et Simone qui montaient dans sa direction. Quand elle les aperçut, il fut trop tard pour tourner les talons. Le cœur battant, elle avala péniblement sa salive en serrant de toutes ses forces la poignée jusqu'à avoir les doigts blanchis. La souffrance qu'elle ressentit devant le manque de sa jumelle fut pire qu'une claque en plein visage. Sa sœur n'avait pas vu son neveu une seule fois. Fermant les yeux à demi, Madeleine s'écarta vers le bord du chemin et se recroquevilla sans même s'en rendre compte, comme si elle attendait un coup. « Ça fait que je dis à maîtresse d'école... Ah ben maudit! » Géraldine, qui racontait une anecdote à son amie, venait de comprendre pourquoi Simone avait ralenti le pas. Alors que cette dernière plongeait le visage vers le sol pour éviter de poser son regard sur sa sœur, sa camarade, elle, releva ses larges épaules. Dépassant les jumelles de 8 bons pouces et de presque 50 livres, la femme se plaça entre les sœurs comme un bouclier. « Je te dis qu'il y en a qui sont pas barrés. Ça se permet de se promener partout comme si tout était normal. » Madeleine ne répondit rien, se contentant de pousser le landau, le cœur battant. Elle se retenait de regarder avidement sa sœur pour la supplier encore une fois de lui pardonner son moment de faiblesse. Elle avait envie de l'embrasser, de l'enlacer, de lui toucher les joues, de la consoler aussi. Depuis l'enfance, les jumelles se comprenaient à mots couverts, sentaient la douleur de l'autre. Et Dieu savait à quel point la mort d'Éloi en avait causé.
« J'ai pas voulu, Simone, si tu savais comme je me déteste parfois !»
eut envie de crier Madeleine. Géraldine s'avança vers la nouvelle maman et planta les deux mains sur les hanches à quelques pieds d'elle. Madeleine aurait voulu la contourner, mais elle se figea, le rouge aux joues.
« Ce serait une bonne idée que tu restes chez vous !»
s'exclama Géraldine sur un ton hargneux.
« Je veux... Ce que tu veux, nous autres, on n'est pas intéressés à le savoir, c'est clair hein? ?»
Le visage crispé, la grande blonde serra les lèvres l'une contre l'autre jusqu'à les faire presque disparaître. Géraldine n'était pas laide, malgré son front trop large, mais sa personnalité volcanique et bruyante faisait souvent réagir les villageois. Cette femme ne donnait pas sa place quand venait le temps de négocier au magasin, de disputer ses enfants turbulents et de donner une claque en arrière de la tête de ses jumeaux lorsqu'ils s'obstinaient entre eux. Pour le moment, elle avait laissé ses fils Martial, 3 ans, et Auguste, 1 an, près de Simone pour s'avancer au devant de sa sœur. Même si Madeleine n'avait jamais osé la confronter ou répliquer, cette fois-ci, elle en eut assez. Après tout, le drame que Simone et elle partageaient ne regardait en rien Géraldine Veillette. Alors elle ferma les yeux une seconde, prit courage en regardant son Arthur, et répliqua sèchement en fixant la femme droit dans les yeux. « Je vais à la grave. Puis ça, c'est pas tes affaires, Géraldine. J'ai pas à te demander la permission pour me promener dans mon village, à ce que je sache. » Avant que l'autre ne puisse répondre, Madeleine se remit en marche en cherchant à échanger un regard avec sa sœur. Mais c'était trop en demander. Simone n'avait pas l'intention de lui offrir le moindre soutien. Elle serrait les mains des deux garçons si fort qu'ils se plaignirent à grands cris. Au moment de les dépasser, Madeleine sourit à sa nièce Béatrice, restée sagement près de Simone. Derrière son dos, la nouvelle mère entendit un raclement de gorge peu ragoûtant et un crachat ricocha sur le sol à ses pieds. « Sans cœur !» éructa Géraldine alors que Madeleine laissait échapper un long souffle, retenu depuis le début de cette altercation. Malgré toute sa peine et sa détresse, pour la première fois depuis la mort d'Éloi, la jeune mère se sentit fière d'elle-même. Seul Dieu pouvait juger et condamner. Le drame du printemps ne serait jamais oublié, mais Arthur méritait quand même une maman qui pouvait se tenir debout. La femme releva le torse en disant d'une voix ferme : « On y va, mon Arthur. Tu vas voir comme la mère est belle. »